Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Guillaume Ledu, émission que vous pouvez écouter tous les matins si vous êtes lève-tôt ou quand vous voulez d'ailleurs si vous êtes abonné au podcast de l'émission. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos et aujourd'hui on va parler de l'exposition Les Infamies photographiques de Zygmar Polk au BAL, c'est-à-dire à Paris jusqu'au 22 décembre. Et dans cet espace d'exposition, de réflexion dédiée à l'image sous toutes ses formes, on découvre une autre facette de l'artiste allemand contemporain qui a pratiqué essentiellement la peinture, mais dont l'œuvre multiforme comporte aussi la photo et le cinéma. On a d'ailleurs souvent évoqué la dimension photographique dans les peintures de Polk. L'exposition au BAL vient nous rappeler que ça marche dans les deux sens. Il y a aussi une dimension picturale dans ses photos. Et pour nous en parler ce matin, le commissaire de l'exposition, Bernard Margadet, critique et historien de l'art.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Bernard Margadet.
Bonjour.
Alors l'exposition consacrée justement à l'œuvre photographique de Zygmar Polk jusqu'au 22 décembre au BAL a un titre qui intrigue, Les Infamies photographiques de Zygmar Polk.
Ouais, et alors Les Infamies, il fallait bien rendre hommage à la dimension corrosive de l'art de Zygmar Polk. Et donc, l'infamie, ça vient de, bien sûr, de Borges, qui lui-même est le grand historien des infamies. Il a fait ce fameux livre, Histoire de l'infamie, et donc c'est aussi un clin d'œil à Borges, c'est-à-dire l'idée que, au fond, il s'agit de rendre aussi hommage à la mauvaise réputation. Puisque au fond, l'infamie, ce n'est que simplement c'est l'envers de la réputation, donc la mauvaise réputation. Au fond, Zygmar Polk, il a d'une certaine manière mauvaise réputation, en tout cas dans sa manière de faire de la photographie et même de la peinture. Donc c'était.
Mais il est plus connu en tant que peintre ici.
Oui, c'est un peintre qui utilise aussi la photographie. Et il l'utilise pas simplement pour sa peinture, il l'utilise de manière aussi autonome. Et c'est ce que cette exposition montre de manière incroyable, parce que c'est une collection donc qui appartient à son fils, Georg Polk.
Pour la première fois exposé en France, on peut le dire, ce travail photographique.
Absolument. Il a déjà été montré uniquement une fois à Leverkusen, en Allemagne.
Vivant de Polk?
Non, absolument.
Oui, parce que toute la question qu'on se pose quand on voit ces photos exposées, c'est est-ce que ces documents de travail, ces photos personnelles, ou c'était une œuvre d'art, une démarche artistique destinée à être montrée?
Alors je pense qu'avec Zygmar Polk, tout est possible. Il n'y a pas de hiérarchie d'une certaine manière. Et ce qui relève de la vie privée aussi bien que de l'art sont mélangés. Donc effectivement, ce qui est magnifique dans cette exposition, c'est de voir le soin avec lequel, d'une certaine manière, il s'occupait lui-même de ses tirages photographiques. Parce que tous ces tirages, il n'allait pas chez le tireur. Hein. C'est-à-dire, il s'occupait de la prise de vue jusqu'au tirage. Il s'occupait de tous les aspects. Et ce qui est magnifique dans cette exposition, c'est que ce sont tous des originaux d'une certaine manière, parce qu'en fait, la manière qu'il avait de travailler l'image est complètement folle. C'est pas du tout la reproduction. On a souvent dit que la photographie c'était un art de la reproduction, mais dans le cas de Zygmar Polk, c'est pas du tout un art de la reproduction, puisque chaque photographie que vous allez voir, que vous pouvez voir au BAL, est en réalité un original.
Alors, on se pose tout de suite la question, est-ce que c'était des photos qui devaient servir à son travail de peintre? Réponse, non.
Non, absolument pas. En tout cas, dans cette exposition, il n'y a absolument aucune photographie qui renvoie à une peinture que... Et pourtant, je connais bien la peinture de Zygmar Polk directement. Donc, c'est vraiment une œuvre autonome. C'est vraiment 300... images autonomes. Il y a une seule photo qui est une photographie de sa peinture, mais c'est une photographie de sa peinture. C'est-à-dire, c'est un document d'une peinture des années 60, une plaque de chocolat. C'est le seul, on pourrait dire, c'est le seul clin d'œil de Zygmunt Polk à sa peinture. Autrement, toutes les autres photographies, c'est des photographies de ses amis, c'est des photographies de sa famille, c'est des photographies de ses voyages, c'est des photographies de ses expériences de drogue, c'est des photographies de qui traversent absolument tous les aspects de sa vie. Mais il y a
beaucoup de photographies de d'articles de journaux, de livres, de choses imprimées, écrites.
Alors ça, c'est très essentiel. Alors ça, c'est on dirait le rapport de Zygmunt Polk à la reproduction. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui à l'instar, on pourrait dire, d'un Andy Warhol, s'intéresse beaucoup plus à la question de la reproduction qu'à la question de la production. C'est-à-dire que tout son art vient de quelque chose qui est déjà là d'une certaine manière. Mais ce qui est formidable et ce qui le différencie totalement d'Andy Warhol, c'est que s'inscrivait dans la reproduction, mais il en effaçait toutes les erreurs, il enjolivait, il idéalisait tout.
Par des couleurs vives, ce qui est tout à fait le contraire avec notre Zygmunt Polk, qui lui, il fait l'anti-pop art.
Absolument. C'est un pop art européen, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de s'opposer d'ailleurs au pop art américain qui, dans les années 60, est devenu dominant. Et avec son ami Gerhard Richter, donc avec lequel il a fait le réalisme capitaliste, un mouvement où ils étaient trois,
en opposition au réalisme socialiste, bien sûr,
et aussi en opposition au pop art américain. Donc, s'est occupé de la question de la reproduction. Donc, tous les deux sont très passionnés par la question photographique, et tous les deux font des photographies. Tous les deux utilisent des photographies et tous les deux utilisent même des documents photographiques. Et effectivement, ce qu'il privilégie, et c'est ça ce qui le distingue de Warhol, c'est au contraire les accidents. Tout ce qui est dans l'impression, dans la trame, fait tâche d'une certaine manière. C'est tous ces accidents que Zygmunt Polk, à la différence de Andy Warhol, va privilégier.
Mais alors, on est très troublé quand on voit ces photos, Bernard Marcadet, parce que quand vous parlez de l'accident, de l'imprévu, se pose la question, est-ce que ces photos qu'on voit, et certaines sont très datées, touchées par le temps, on se dit c'est voulu, ou c'est parce que ces photos qui ont été prises il y a plus de 30 ans ont elles-mêmes subi les affres du temps?
Alors, ce qui est extraordinaire dans la démarche de Zygmunt Polk, c'est que précisément il y a vraiment une volonté de rabattre la question de la photographie, de ne pas en faire cet art finalement noble, magnifique, mais au contraire de la renvoyer à son origine. C'est-à-dire, il y a une mauvaise réputation de la photographie dès le départ. C'est-à-dire, la photographie, c'est ce qui la peinture dit, mais c'est pas possible. Quand la photographie arrive, la peinture a des gros problèmes. Il y a une haine des peintres pour la photographie. Et ça, cette mauvaise réputation donc de la photographie, ça évidemment, Polk en fait son miel d'une certaine manière. Mais il en ajoute encore une couche, c'est-à-dire que au lieu d'ennoblir d'une certaine manière, de donner ses lettres de noblesse à la photographie en tant que peintre, puisque au fond on pourrait dire je suis peintre donc je vais donner mes lettres de noblesse à la photographie, au contraire il en rajoute une couche et il utilise alors la photographie de manière vraiment complètement, et c'est là la dimension infamante, on pourrait dire une nouvelle fois, de sa pratique. C'est-à-dire, il utilise souvent des produits périmés, il utilise des papiers qui ne sont pas des papiers vraiment photographiques, qui sont pas faits pour, c'est-à-dire qu'il expérimente au fond. C'est exactement comme dans sa peinture, c'est vraiment un creuset alchimique de toutes les expérimentations. Il utilise souvent dans sa peinture des produits dangereux, des poisons, des peintures défendues même. Donc parce que il pense que l'art doit produire en effet d'une certaine manière, et que d'une certaine manière, il est tout à fait opposé à un art décoratif qui enjolirait le monde d'une certaine manière. Lui au contraire, il veut que l'art produise un effet, et même d'une manière droite drôle, il dit quelquefois, moi j'aimerais bien que devant mes peintures, puisque j'utilise de l'arsenic, des peintures à l'arsenic, j'aimerais bien que les gens perdent leurs cheveux. Évidemment, c'est une manière drôle de poser la question, drôle et en même temps un peu inquiétante. Mais donc avec la photographie, c'est la même chose, c'est-à-dire que en fait c'est un flux d'expériences avec sur le médium photographique et qui sont assez extraordinaires.
C'est l'historien, le critique de l'art qui parle, Bernard Marcadet, ou c'est en plus de ce que vous êtes celui qui a rencontré et qui a parlé longuement avec Zygmunt Polke?
Oui, c'est vrai que le fait de le rencontrer, c'est quand même bon, c'est vraiment très important pour moi.
J'ai suivi ses travaux photographiques.
Quoi. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment été dans le secret de l'atelier, mais comme j'ai été présent pour les trois grandes expositions parisiennes, une à l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris, une deuxième à Nîmes et une troisième à Grenoble. Donc c'est les trois grandes expositions françaises de Zygmunt Polke. Mais il n'y avait pas de photographie à ce moment-là. Mais ceci dit, dans mes textes déjà, je parlais de la question photographique. Il y a un fameux, et d'ailleurs il y a un extrait de cette série dans l'exposition, c'est le rapport à Goya.
Absolument.
Ça, c'est vraiment une chose très 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 importante, et bien sûr...
Enfin, c'est une photo d'une reproduction d'un tableau de Goya paru dans un journal qui avait fait son temps.
Hein. Pas exactement ça. Il a quand même été très... Il est allé très loin dans cette affaire, parce qu'il est allé jusqu'à... Alors, donc, il s'agit d'un tableau qui est à Lille, au musée des Beaux-Arts de Lille, qui s'appelle Les Vieilles. Donc, il y a deux vieilles dames qui sont représentées dans ce tableau. Et ce qui a intéressé Zygmunt Polke, c'est que dans le fond, à droite, au fond, en haut, à droite du tableau, il a vu quelque chose comme qu'il sentait comme étant un remords, un repentir du peintre de Goya. Et donc il est allé faire des radiographies de
cette partie. Ce sont des radiographies.
Oui, c'est-à-dire ce que vous voyez dans l'exposition du bal, c'est encore plus extraordinaire. Ce sont des photocopies faites d'après des radiographies. Alors donc voilà, donc la photocopie est encore quelque chose de très dévalué. La radiographie, on pourrait dire en oublierait d'une certaine manière. On irait à l'intérieur de la peinture de Goya, etc. Mais là, il y a une volonté maligne, encore une fois, chez Zygmunt Polke, de faire des photocopies avec des radiographies.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
I'm working hard to keep you satisfied, and I prefer to sleep at night too much. Too much. You want me 7 days a week to treat you right. I'm far too weak. Too much. Thank you.
Too Much, Hong Kong Syndicate. On pourrait dire la même chose pour le travail de Zygmunt Polk au bal. Enfin, ses travaux photographiques. Bernard Marcadet, vous êtes le commissaire de cette exposition jusqu'au 22 décembre, donc au bal, autour des infamies photographiques de Zygmunt Polk. C'était utiliser la photo comme si c'était un support parmi tant d'autres, en faisant de la peinture, ou bien essayer d'analyser la photo jusqu'à arriver au degré vraiment primaire de la photo.
Oui, je pense que le deuxième point, et c'est un peu ça qui met en jeu et en œuvre. Il y a une dimension fantasmagorique dans sa peinture, et bien sûr, la photographie est une, on pourrait dire, une fantasmagorie par définition. Quand la photographie est arrivée, on a vu des choses apparaître, des choses de la réalité, mais aussi, de quelque chose justement qui n'est pas forcément la réalité. C'est ça qui est intéressant. Il s'est beaucoup intéressé au médium, à la photographie médiumnique, hein, des médiums qui faisaient apparaître des spectres, des choses comme ça. Non pas qu'il y croit, mais en tout cas c'est une matière formidable pour lui d'imaginaire. C'est un creuset d'imaginaire, les photographies des médiums, très 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 intéressant. Et donc entre l'alchimie dans sa peinture, la photographie des médiums, la photographie, c'est ce qui fait apparaître des spectres, des fantômes, des choses qui étaient là ou qui sont là mais qu'on ne voit pas, mais que l'artiste justement
qu'est-ce qu'on voit pas. Alors justement, dans cette expo où il y a que des photos, il y a quand même aussi une partie consacrée à un film. Et tout le jeu de ce film, c'est d'où je vous vois et qui voit quoi.
Oui, alors le film est un film d'un artiste allemand, de ses amis. Et donc c'est pas un film de Polke. On a eu des problèmes parce que Zygmunt Polk, en fait,
non, Polke là, il est comédien.
Oui, voilà. Mais en fait, il utilise beaucoup là aussi. Non seulement il utilise l'appareil photo, mais il utilise aussi la
pellicule,
et le 16 mm, etc. Le problème, c'est que pour des raisons, voilà, qui sont liés à son ses ayants droit, d'une certaine manière, on n'a pas le droit pour l'instant de montrer les films de Zygmunt Polk. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'était de donner accès au corps, finalement, de Zygmunt Polk. Et donc, c'est magnifique de voir Zygmunt Polk qui fait une sorte de qui rentre dans le jeu d'un autre artiste en tant qu'acteur. Et de voir que bon, on voit qu'il est timide, bien sûr, donc il y a quelque chose comme du côté de Jacques Tati dans ce film, et en même temps il est timide, et en même temps il y a tout l'amour du cinéma muet, encore une fois le cinéma muet
burlesque
dans ce film. Et je crois que voilà, il fallait rendre hommage à je crois que ce que Zygmunt Polk aime dans la photographie, comme ce qu'il aime dans le cinéma, c'est cette dimension première. C'est pas du tout l'enregistrement de la réalité, mais c'est cette fantasmagorie, ce pouvoir fantasmagorique, ce pouvoir de fantasmer, de faire fantasmer le spectateur et lui-même de produire des fantasmes, des fantômes. Fantasme et fantôme, c'est bien sûr la même origine.
La photo, elle vient très vite dans l'œuvre de Zygmunt Polk, Bernard Marcadet, ou...
Dès le départ, et c'est ça, c'est avec Gerhard Richter, son compère de l'époque, c'est là-dessus d'ailleurs qu'ils fondent leur groupe du réalisme capitaliste, et leur rapport à la photographie. Gerhard Richter, c'est plutôt les photographies de famille. On connaît son oncle Rudi, hein, qui a porté l'uniforme nazi, ou les photos de destruction de Dresde, qui sur lesquelles il s'est appuyé, mais aussi, et de la même manière, Zygmunt Polke, alors lui, utilisait pas du tout des choses moins germaniques que Gerhard Richter, parce que sa germanité est un peu plus mesurée.
Oui.
Parce que dans la mesure où c'est quelqu'un qui vient de Silésie, donc quasiment aujourd'hui c'est l'endroit où il est né, est en Pologne. Donc il est pas un pur allemand, et il déteste la pureté. Et je pense qu'il déteste tout ce qui est pur. Et je pense que c'est quelqu'un qui revendique l'impureté fondamentalement dans son art. Et justement, il a, à la manière d'un Nietzsche, justement, il déteste la pureté allemande d'une certaine manière. Et donc, voilà. Et ça, c'est ce qui le distingue au fond de son compère Garage. Mais en tout cas, sur la question de la photographie, oui, ils utilisent effectivement tous les deux des supports photographiques pour leur peinture à l'origine. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Zygmunt Polke, c'est qu'il y a aussi une œuvre photographique autonome.
Et des expérimentations surtout.
Voilà, et des expérimentations.
Alors, sa consécration à la Biennale de Venise est présente dans cette exposition. Est-ce que la photo avait déjà joué un rôle prédominant dans ce moment clé de sa vie?
Bien sûr. En 86, quand il occupe le pavillon allemand de la Biennale de Venise, il a le Lion d'or avec sa prestation dans le pavillon allemand. La dimension photographique est déjà présente. Mais ce qui est intéressant et ce que nous voyons dans l'exposition du bal, c'est que finalement, pour faire le catalogue de son exposition,
très beau catalogue qu'on peut voir d'ailleurs.
Ouais, de son exposition de la Biennale de Venise, il ne fait aucune reproduction de ses œuvres. Mais par contre, il utilise toutes les photographies qu'il a fait pendant ses expérimentations. Parce qu'il faut dire que pendant la Biennale de Venise, ce qu'a fait Zygmunt Polke est très particulier. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a enduit les murs. Il a attaqué quasiment les murs et les murs étaient. Il a utilisé une peinture thermo qui réagissait à la chaleur. Donc c'était une peinture qui bougeait en permanence. Donc c'était quelque chose qui était irreproductible d'une certaine manière. Donc c'était vraiment une expérience. Il nous immergeait dans de la peinture, et d'une certaine manière il n'allait pas dans son catalogue reproduire quelque chose qui ne pouvait pas être montré d'une certaine manière. Donc ce qu'il a fait, il a pris la chose totalement à l'envers. Il a fait des photographies de toutes ses expérimentations dans le pavillon allemand, et en plus évidemment, et ce sont aussi à nouveau des photocopies, c'est-à-dire ce ne sont pas les tirages directs, ouais. Mais c'est des choses qui sont encore une fois des expériences dépravées d'une certaine manière de l'idéal photographique.
Le réveil culturel.
Bernard Marcadet, vous qui êtes historien de l'art, vous connaissez bien sûr la peinture de Zygmunt Polke. Vous qui avez donc choisi avec Diane Dufour du bal les photographies exposées en ce moment et jusqu'au 22 décembre au bal à Paris, parmi les 300 ou plus de 300 photos que le fils conservait, qu'est-ce que ce travail photographique vous a ramené comme nouveau éclairage sur l'œuvre de Zygmunt Polke?
Moi, je pense que vraiment c'est une découverte. C'était déjà une découverte pour moi. Je connaissais la relation profonde de Zygmunt Polke à la photographie, mais
de voir, c'est un carottage dans la collection de Georg Polke qu'on a opéré, parce qu'il y a au fond à peu près un millier d'images de cet ordre. Donc, il y a eu un choix qui avait déjà été fait par le musée allemand de Leverkusen, sur lequel on s'est appuyé. Mais pour moi, c'est même pour moi qui connaît bien la peinture de Zygmunt Polke, que c'est vraiment une découverte de voir dans quel état, d'une certaine manière, il met la photographie, parce que au fond, il l'a fait descendre très bas, d'où sa dimension, d'où le titre de mais en même temps, il l'a fait descendre très bas parce que en la faisant descendre très bas, il va trouver au fond de sa misère, on pourrait dire, de la misère photographique, il va trouver effectivement quelque chose qui est une intensité qui est pour moi effectivement complètement inédite.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et un aperçu des travaux photographiques de Zygmunt Polke sont à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr. Merci beaucoup Bernard Marcadet d'être venu nous en parler de cette exposition jusqu'au 22 décembre au bal Les Infamies Photographiques de Zygmunt Polke.
Merci à vous.